France Culture. France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. En ce moment même, au Vatican, place Saint-Pierre, une foule immense et recueillie participe à la messe de funérailles du pape François, une cérémonie grandiose et pourtant simplifiée, comme le souhaitait le défunt pontife qui écrivait dans son autobiographie « L'évêque de Rome est un pasteur et un disciple, il ne fait pas partie des puissants de ce monde ». Les puissants de ce monde sont bien là, chefs d'État et de gouvernement, une cinquantaine d'entre eux, face au parvis où se déroule la cérémonie. Parmi eux, Donald Trump, Volodymyr Zelensky et la plupart des dirigeants européens anxieux de peser sur le sort de l'Ukraine au moment où l'administration américaine ne cache ni son exaspération à l'égard de Kiev, ni sa sympathie vis-à-vis des exigences de Vladimir Poutine. Les présidents américains et ukrainiens se sont rencontrés ce matin, une rencontre très productive selon la Maison-Blanche, mais rien de précis n'a filtré pour l'instant. Avant de partir pour Rome, Donald Trump se vantait néanmoins en lettres capitales sur son réseau social que tout le monde voulait le voir, tant, écrivait-il, l'Amérique est grande. Il est un pays en tout cas où les 100 premiers jours de sa présidence ont suscité une telle irritation que les élections générales de lundi prochain en seront sans doute bouleversées. Il s'agit du Canada, ce grand voisin du Nord que Donald Trump rêve d'annexer pour en faire un 51e État. Il vient de le répéter encore une fois au magazine Time. Résultat, les Canadiens se sont découverts, au-delà des matchs de hockey, une ferveur patriotique renouvelée et une détermination partagée à faire face aux pressions diverses infligées à leur économie, étroitement liées à celle du voisin. Quelle en sera lundi la traduction politique? Quelle marge de manœuvre pour le prochain gouvernement sur le plan économique et énergétique? Quelles opportunités et quelles leçons aussi pour nous en Europe, où de l'Ukraine aux échanges commerciaux, la démarche de Washington devient de plus en plus incompréhensible? On va néanmoins comprendre beaucoup de choses ce matin grâce à vous. Laurence Nardon, vous dirigez le programme Amérique au pluriel de l'Institut français des relations internationales. Avec nous, Dominique Moisy, membre fondateur de l'IFRI et conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Sébastien Jean, professeur d'économie au Conservatoire national des arts et métiers, directeur associé de l'initiative Géoéconomie-Géofinance de l'IFRI. Et je suis ravie d'accueillir Philippe Chassé, doctorant en sciences politiques à l'Université de Montréal et à Sciences Po Paris. Laurence, Donald Trump, avant de monter dans l'hélicoptère quittant la Maison-Blanche hier soir, a dit « les funérailles, ça va être très intéressant ». Donc très intéressant, et d'après les dépêches, Il a rencontré, donc ce matin, avant le début de la cérémonie pontificale, il a rencontré son homologue ukrainien, une réunion très productive, dit la Maison-Blanche. Plus de détails de la réunion suivront. Ce que l'on sait, Laurence, c'est que le président américain a accordé au magazine Time une très longue interview pour marquer les 100 premiers jours de son mandat.
Oui, et dedans, il explique sa volonté de terminer la guerre en Ukraine, mais ça nous laisse quand même un peu songeur, parce qu'il y a beaucoup d'imprévisibilité. On sait que les négociations se tiennent et sont assez soutenues, mais on ne sait pas très bien comment ça va se terminer. On sait que les États-Unis de Trump soutiennent à l'évidence la Russie par rapport aux intérêts des Ukrainiens. Et ces derniers, ils se sont rencontrés donc ce matin. C'était la première fois qu'ils se retrouvaient depuis cette horrible rencontre dans le bureau ovale où Zelensky s'est fait humilier aux yeux du monde, ce qui a finalement sans doute plutôt renforcé sa cause aux yeux des Européens, par exemple.
Aux yeux des Ukrainiens eux-mêmes.
Ah bah oui, ça c'est évident. Je crois que Zelensky a des records de popularité dans son pays depuis un moment, mais surtout depuis cette rencontre. Imprévisibilité donc, parce que On sait que Trump se fatigue beaucoup des négociations qui n'avancent pas. Et donc, si les Russes ne sont pas suffisamment flexibles, les Ukrainiens non plus d'ailleurs, eh bien, ils pourraient tout à fait passer à autre chose. C'est ce qu'il avait fait pendant son premier mandat avec cette affaire de Corée du Nord. Il y a eu 3 rencontres de très haut niveau avec Kim Jong-un notamment. Et puis, comme ça n'avançait pas, eh ben, il avait juste laissé tomber le dossier. Et on n'est pas à l'abri de quelque chose comme ça sur l'affaire de l'Ukraine. Une autre inconnu aujourd'hui, je trouve, c'est que Zelensky n'a toujours pas signé ce fameux deal sur les terres rares. Mais en réalité, on ne sait pas très bien quelle est la valeur des terres rares ukrainiennes, dans quelle mesure elles sont exploitables, où est-ce qu'elles se trouvent, plutôt en zone russe, paraît-il. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas vraiment encore sur ce dossier.
Dominique Moïsi, on ne sait pas grand-chose, on sait encore moins de ce qui s'est dit ce matin, mais le président américain, dans cet entretien à Time, a répété que la Crimée devait rester russe, mais au fond, on ne sait pas très bien de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'un cessez-le-feu? Est-ce qu'on parle des chances d'une trêve? Est-ce qu'on parle d'un accord? Est-ce qu'on parle d'un traité de paix? C'est pas du tout la même chose en termes de droit international à supposer que la notion ait encore un sens à la Maison-Blanche.
Oui, c'est toute la question. Les Ukrainiens n'ont pas les moyens, même avec l'aide de l'Europe, de reconquérir les territoires qu'ils ont perdus. Ni la Crimée, ni à l'est du pays, dans le Donbass. Donc le problème pour eux est de reconnaître ce fait. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas les moyens de récupérer ces territoires, mais nous n'acceptons pas un traité de paix qui ferait de ces territoires désormais, de manière légale, entre guillemets, partie de la Russie. Donc il faut compte tenu de la situation sur le terrain, nous acceptions un cessez-le-feu, une trêve. Il y a des trêves qui durent extrêmement longtemps. Regardez la situation en Corée du Nord. C'est beaucoup plus proche de nous, la situation à Chypre. Il n'y a pas de solution formelle. Et toute la question est là. Poutine, qui se sent soutenu par Trump, dit bah maintenant c'est à moi, ça a toujours été à moi la Crimée, c'est à moi ces territoires que j'ai conquis, et la communauté internationale me reconnaît ces conquêtes. Et l'essentiel pour l'Ukraine, c'est d'être soutenu par l'Europe pour dire non, c'est pas un accord de paix, c'est même pas un accord, c'est une trêve. Et en fait, c'est l'avenir de l'Ukraine qui se joue là. Est-ce que demain, elle sera une nouvelle Biélorussie, ou est-ce que demain, elle sera une nouvelle Pologne, même si elle ne pourra pas, contrairement à la Pologne, rejoindre l'OTAN?
Et cela renvoie évidemment, Dominique, à la responsabilité, ou plus précisément à la marge de manœuvre des Européens eux-mêmes. Alors on sait aussi que ce matin, donc, Place Saint-Pierre, Donald Trump et Ursula von der Leyen se sont salués, mais enfin ça c'est bien le moins. Il semblerait que le placement face au parvis de la cérémonie se fait par ordre alphabétique. Donc il se peut que Donald Trump ne soit pas nécessairement ravi de ne pas être au premier rang.
Oui, mais il y a aux dernières funérailles, donc il y avait Israël, Iran, l'un à côté de l'autre, et les représentants de ces deux pays ont échangé longuement, la presse, à cette occasion. Donc voilà, c'est l'ordre alphabétique est le plus démocratique qui soit.
Laurence Nardon, revenons à cet entretien donc de Donald Trump au magazine Time. Il est intéressant parce que Donald Trump ne s'exprime la plupart du temps maintenant que les podcasts les plus populistes, peut-on dire, comme Joe Rogan, etc. Et donc là, Trump parle à Time, ce qui est quand même l'un des bastions des médias traditionnels. Et il fait aussi allusion, enfin plus qu'allusion, c'est un propos quand même très lourd, où il dit « Moi, je veux annexer le Groenland et le Canada, et je ne plaisante pas. »
Oui, je ne plaisante pas. I'm not joking. Oui, cette histoire de Trump qui veut annexer le Canada, enfin en faire le 51e État, enfin il avait parlé du gouverneur Trudeau à l'époque, il a commencé à en parler sérieusement le 7 janvier dans une conférence de presse à Mar-a-Lago et il continue. Alors, je me suis demandé d'où ça venait cette volonté d'expansion territoriale vers le Nord, parce que on sait que Trump se repose beaucoup depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche sur le projet 2025. Vous vous souvenez, ce projet qui a été préparé par la Heritage Foundation, un think tank très conservateur. Trump avait dit que c'était pas son projet pendant la campagne, mais là on voit bien qu'il se repose beaucoup dessus. Et j'ai voulu aller voir dedans si on en parlait déjà de cette histoire d'annexion du Canada, et en réalité pas du tout. Dans le projet 2025, on parle, d'ailleurs on parle pas non plus du Groenland, d'une annexion du Groenland, ni d'un retour à Panama, on parle pas beaucoup du Canada en réalité, on parle beaucoup de l'Arctique, qui est déjà un sujet, en fait, très canadien pour les États-Unis, hein, puisque s'il y a bien un sujet sur lequel les États-Unis et le Canada historiquement se sont disputés, c'est sur l'accès aux routes maritimes qui passent par l'Arctique, parce que...
Mais avant de partir vers le Grand Nord, restons sur cette frontière. Il est quand même sidérant que le président des États-Unis réclame encore et encore. Cette obsession est...
Oui, comment l'expliquer ? Alors, donc, ça n'est pas dans le projet 2025. Donc, c'est vraiment quelque chose que Trump a imaginé tout seul. Alors, pourquoi ? Il y a plusieurs explications qui sont proposées. D'abord, une inimitié personnelle avec Trudeau, parce que Trudeau s'était moqué de lui dans un G7 pendant le premier mandat. Et on sait que Trump est extrêmement narcissique et susceptible, donc il en a conservé probablement une inimitié pour l'ex-premier ministre. Et puis, il y a cette idée, à mon avis plus importante, chez Trump, d'expansion territoriale comme au 19e siècle, donc annexons des territoires pour devenir les plus puissants dans sa nouvelle vision du monde, qui est une vision de sphère d'influence. Donc chacun dans sa sphère d'influence doit être le plus fort, et donc annexer du territoire, pour Trump, semble la solution la plus importante, avec aussi cette idée de dominer les Amériques. Alors il parle de l'hémisphère occidental, nous en France on appelle ça les Amériques, donc du nord, du milieu et du sud. Donc il y a vraiment cette idée d'étendre la domination territoriale des États-Unis dans le pays, et je crois que là c'est pour le coup vraiment une idée de Donald Trump.
Philippe Chassé, vous êtes Canadien, Québécois, quelle est votre réaction déjà en tant que citoyen canadien ?
Oui, disons que dans ma vie, je n'avais jamais pensé devoir craindre nos voisins au sud. Donc pendant longtemps, les Canadiens ont été plutôt contents d'avoir comme voisins les États-Unis d'Amérique. Ça nous semblait être un voisin fiable. Nous avons notamment de très bonnes relations habituellement avec les États-Unis. Pour les Canadiens, il est plutôt fréquent de voyager aux États-Unis, d'avoir des collègues qui sont États-Unis. Donc, c'était une surprise au début. Et je dirais que les Canadiens ont été d'autant plus surpris que la guerre tarifaire a commencé avec le Canada et le Mexique. Et nous croyions, à l'époque, être de bons voisins des États-Unis. En plus, les accords de libre-échange avaient été signés sous M. Trump. Donc, nous croyions, à l'époque, que nous étions... tout allait bien avec les États-Unis.
Enfin, c'était normal.
Oui. Et les premières menaces d'annexion, au début, ont été prises à la blague. Et c'est à partir d'un certain moment où M. Trudeau a dit « Non, M. Trump ne blague pas », où les gens ont commencé à prendre ces menaces très au sérieux. Mais voilà, ce sont c'est plutôt surprenant, je dois vous avouer que... Et le Canada est un pays très paisible également. Je crois que ce qui était très surprenant pour beaucoup de Canadiens, c'est que jamais dans nos vies, nous ne pensions que notre souveraineté, donc Canada, allait être menacé par un pays autre, extérieur, qu'un autre pays allait s'attaquer à notre souveraineté.
Dominique Mosi, en fait, nous méconnaissons, il faut bien le dire, et le terme est pudique, nous méconnaissons l'histoire des relations entre les États-Unis et le Canada, qui se sont fait la guerre. En fait, je crois en 1812, nous étions occupés à autre chose, donc 1812-1814, où les États-Unis ont envahi le Canada. Et là, ce sont les Anglais qui ont gagné cette guerre.
Oui, mais je crois que la guerre, elle commence plus tôt. Il y a une opération militaire américaine pendant la guerre d'indépendance. Et ça se termine très mal, déjà, pour les Américains. En fait, ironiquement, il faut voir que à la fin du XVIIIe siècle, lorsque l'Amérique est en quête d'indépendance, des personnalités telles que Benjamin Franklin ou George Washington disent aux Canadiens « Mais écoutez, il faut nous rejoindre, vous n'allez pas rester l'emprise de la monarchie britannique, rejoignez la modernité, rejoignez la démocratie, votre place est au pays des Lumières qui est en train de se constituer. » Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que c'est à front renversé. Les Canadiens disent « mais on va pas rejoindre cette Amérique réactionnaire, ultra-conservatrice, qui n'est peut-être plus vraiment une démocratie. Nous croyons à la liberté, nous croyons au respect des droits et nous voulons rester souverain. » Donc cette histoire a déjà eu lieu, mais à front totalement renversé. Hier, l'Amérique, c'était la modernité et la liberté. Aujourd'hui, l'Amérique, c'est à l'inverse, le risque d'un régime autoritaire, non démocratique.
Sébastien Jean, j'ai retrouvé cette formule excellente d'un président mexicain de la fin du 19e siècle qui s'appelait, je crois, le président Diaz et qui a dit « Si loin de Dieu, si près des États-Unis ». Donc c'est évidemment le cas du Mexique, c'est évidemment le cas du Canada. Le Canada, comme le rappelait Philippe Chassé, a été, en même temps que le Mexique, la première cible des attaques extrêmement agressives sur le plan commercial, tarifaire, comme on dit à Washington, de cette administration républicaine.
Oui, et bien que la politique commerciale de Trump ne soit pas avare de surprises, pour moi, c'est probablement la plus grande surprise et le plus grand non-sens de l'ensemble de ce fatras complètement erratique auquel on est soumis jour après jour depuis sa prise de fonction et même avant d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que, d'une part, c'était motivé par le trafic de fentanyl. Alors, le trafic de fentanyl, il se fait pas par le Canada ou alors...
Alors,
de
le
façon...
fentanyl, on a fait d'ailleurs une émission ici même il y a quelques semaines. C'est donc cette drogue extrêmement puissante qui est fabriqué à partir d'éléments souvent chinois et qui passent par le Mexique et maintenant aussi par le Canada où il y a des laboratoires.
Voilà. Mais il y a très peu de trafic qui passe par le Canada. Donc, et puis, je crois que les accusations de laxisme vis-à-vis du Canada étaient largement infondées. Donc ça, c'était très surprenant. C'était très surprenant aussi parce que l'industrie nord-américaine, c'est vraiment forgé comme une industrie Amérique du Nord depuis des années, avec un enchevêtrement de ce qu'on appelle les chaînes de valeur, finalement, de cette organisation industrielle, par-delà les frontières. Alors, le Mexique savait que c'était générateur de tensions politiques aux États-Unis. Pour le Canada, c'était nettement moins évident. Puis l'industrie automobile, par exemple, ça fait 60 ans qu'elle est organisée de cette façon, avec donc un premier accord commercial qui date de 1964 sur l'automobile. Donc c'est Trump a l'air de faire comme si tout ça, on pouvait le réordonner en quelques mois. Et en fait, ce sont des décennies de politique volontariste pour organiser une filière entière qui est complexe, qui demande des investissements matériels, humains, etc. Donc c'est très surprenant de commencer par là. Et il avait l'air de faire comme s'il ne voyait pas que, en fait, en touchant ces échanges-là, c'est avant tout l'industrie américaine qui touchait. Et d'ailleurs, ce sont les industriels des États-Unis qui ont mis le haut là, enfin qui ont fait des pressions terribles. Aujourd'hui, dans une situation où, par exemple, Stellantis a dit « j'arrête mes usines d'Amérique du Nord pendant 2 semaines pour voir ce qu'il en est ». Parce que on arrive dans cette situation qui est non seulement incohérente, mais en plus très opaque, où il a dit « on met des droits de douane de 25% contre le Canada et le Mexique pour contrer, pour faire pression, pour limiter ce trafic de fentanyl ». Et puis après, voyant que c'était trop problématique, on les suspend à condition que les biens qui traversent la frontière soient conformes aux règles de l'accord USMCA, l'accord donc renégociation de l'ALENA, signé fin 2018. Mais ça, en fait, c'est pas très clair. quand est-ce qu'un produit est conforme aux règles? Alors, il y a ce qu'on appelle des règles d'origine. Il faut que la valeur ajoutée d'origine américaine soit supérieure à 65 ou 75%. Enfin, ça introduit...
C'est une complexité folle.
Exactement. Si bien que même l'industriel lui-même, Stellantis en l'occurrence, dit on a besoin de faire le point, on a besoin de s'arrêter parce que là, on ne peut pas se permettre de payer ces droits de douane parce qu'on a des pièces qui vont faire l'aller-retour entre des sites productifs différents.
Plusieurs fois,
souvent, il est très courant que ce soit 3, 4, 5, 7, 10 fois. Et donc, on ne peut pas payer, ça n'a plus aucun sens économique. Mais en même temps, on n'est pas sûr de la règle juridique qui s'applique. Et donc, on est paralysé.
Et d'autant plus paralysé que les deux économies sont extraordinairement imbriquées. Je crois que les exportations du Canada vers les États-Unis, ça représente 3/4 des exportations du Canada. Et pour les États-Unis, leurs propres exportations vers le Canada, le Canada, c'est leur premier marché. Je crois que c'est à peu près 60%.
C'est 15% des exportations totales américaines. Et donc, c'est leur premier marché, en effet. Et c'est, c'est une organisation industrielle à l'échelle du continent nord-américain, véritablement, qui est en place. Donc, ce qui est stupéfiant aussi, c'est l'impréparation américaine, c'est-à-dire ne pas voir le fait que les Américains, eux aussi, ont grand besoin du Canada et il leur est indispensable à différents égards. Donc là, par exemple, ce qui a été mis en avant, c'était la fourniture d'électricité par Hydro-Québec pour alimenter. Ils ont 1,5 million de clients aux États-Unis, notamment à New York. Et donc, ils ont répondu notamment, en tout cas, le gouverneur de l'Ontario a dit, on va mettre une surtaxe de 25% de cette électricité. Ça a duré 2 jours parce que c'était, je pense, extrêmement conflictuel. Mais c'était une façon aussi de mettre le doigt sur un point sensible, sans parler de gaz, pétrole, potasse, et puis minerais. Hein, parce qu'on vient de parler de ressources minérales à propos de ces volontés d'expansion de Trump. Et évidemment, le Canada en est très riche. Celle que je viens de citer, on pourrait parler aussi de lithium, donc de terres rares, etc.
Et donc ça veut dire qu'à la Maison-Blanche, non seulement le président lui-même n'est pas au courant de cette complexité, de cette réalité, et aucun de ses conseillers non plus, à commencer par ce monsieur Loutnik, en charge du commerce et qui, lui, tient des propos souvent assez aberrants.
Je crois que les raisons, il faut plutôt les chercher dans la psychologie que dans la compétence. C'est-à-dire qu'on a un chef qui est complètement imbu de lui-même, qui suppose qu'il a l'intuition de tout et qui n'admet pas la contradiction. Donc, ça ne veut pas dire que ceux qui sont autour de lui ne sont pas au courant d'un certain nombre de réalités, mais ça veut dire qu'ils n'osent pas le contredire. Et donc, il faut attendre que Trump impose son intuition, ses espèces de vérités simplistes, pour qu'il constate les problèmes que ça soulève, et que là, il y ait une porte pour essayer de le convaincre de faire le contraire. C'est plutôt ça, à mon avis, le mécanisme qui est en place.
Qui est assez vertigineux.
Absolument.
Philippe Chassé, le Premier ministre Justin Trudeau a donc démissionné, c'était au mois de janvier dernier, et Marc Carney a donc été élu par le parti de Trudeau, le parti libéral, pour être Premier ministre, et lui-même a appelé à des élections anticipées qui vont avoir lieu après-demain.
Voilà.
Donc, comment est-ce que cette ambiance très très singulière au Canada imprègne cette campagne électorale qui continue, je crois, jusqu'à demain soir?
Tout à fait. Donc, c'est très particulier, hein, parce qu'il faut rappeler que au mois de décembre dernier, le Parti libéral du Canada, donc le parti de M. Trudeau, était très impopulaire à la fois dans les sondages et on avait pu voir des signes avant-coureurs comme quoi la prochaine élection fédérale allait être plutôt difficile pour ce parti. Donc, dans la dernière année, il y avait eu des élections partielles et M. Trudeau avait notamment perdu, lors de ces élections partielles, 3 sièges, dont 2 dans des bastions libéraux. Et quand on parle d'impopularité, hein, M. Trudeau, sa popularité était à 16% de gens qui se disaient satisfaits de son gouvernement, et ça au mois de décembre. Et les intentions de vote pour le Parti libéral étaient très basses. Donc, ça oscillait entre 20 et 25%, ce qui est tout à fait insuffisant pour former à nouveau un gouvernement, que ce soit minoritaire ou majoritaire. Mais les attaques de M. Trump ont un peu changé cette donne. Donc aujourd'hui, on voit le parti de M. Marc Carney dorénavant, le Parti libéral, est en avance dans les sondages. Et si la tendance se maintient, si les sondages ont bien prédit, pourrait former un gouvernement majoritaire ou un gouvernement minoritaire. Il y a toujours cette possibilité-là que les conservateurs forment un gouvernement minoritaire, mais il faut se rendre compte que même ça serait un exploit pour les libéraux d'une certaine manière, parce qu'il y a de ça quelques mois, ce scénario était tout à fait impensable. Et comment expliquer pourquoi c'est les libéraux qui ont tant gagné de ces attaques de M. Trump? Je pense que c'est intéressant. Peut-être premièrement que les Canadiens ont mal pris ces attaques. Les mentions de gouverneur, mais personnel à l'égard de M. Trudeau. Peut-être. Je pense que d'un côté, on peut peut-être l'analyser. M. Carney se vend comme un outsider, a en effet des compétences assez intéressantes et des marques de ses prédécesseurs, candidats politiques.
Un financier
chevronné.
Il a été gouverneur de la Banque du Canada au moment de la crise des subprimes, donc 2008.
Tout à fait.
Et ensuite, il a été gouverneur de la Banque d'Angleterre. Je crois que c'est la première fois.
Voilà.
On ne peut pas dire qu'un étranger, parce que c'est le Commonwealth, c'est tout ce que l'on veut. Enfin, c'était quand même un non-anglais.
Tout à fait.
Et c'était pendant
le Brexit. Donc, en fait, deux moments qui ont été assez charnières à la fois pour le Canada et pour la Grande-Bretagne. Donc, il y a cette image peut-être de compétence qui aide M. Carney. Du moins, lui, ça fait partie de sa stratégie de mettre cette compétence-là de l'avant. Mais l'élément qui me semble peut-être plus important, c'est la stratégie qu'a utilisée pendant les dernières années M. Poilievre, qui est le chef du Parti conservateur.
Alors, qui est-il,
M. Poilievre? Donc, M. Poilievre est le chef du Parti conservateur depuis 2022. Et M. Poilievre a, contrairement à ses prédécesseurs au Parti conservateur, adopté un ton qui était beaucoup plus dans
l'attaque. Trumpien.
D'une certaine manière, oui, d'une certaine manière. Donc, beaucoup plus critique, beaucoup plus populiste également. Donc, à la fois dans la rhétorique, à la fois dans le style de communication politique. Donc, des slogans simples, une rhétorique qui... mais un peuple vertueux contre des élites qui, elles, seraient corrompues, des attaques très fortes à l'égard, par exemple, de M. Trudeau. Il avait traité à la Chambre des communes de Waco, qu'on peut traduire par cinglé, et avait refusé de s'excuser. Et évidemment, au Canada, on a de bons débats politiques. C'est important de le rappeler. Donc, on est un pays où il y a de bons débats entre les partis, mais jamais auparavant, on avait eu des manques de respect peut-être aussi flagrants. Et ça, en fait, ce qui amène peut-être à nuire à M. Poilievre, c'est que les gens, dorénavant, l'associent à M. Trump. Évidemment aussi parce que c'est un parti qui est plus conservateur, plus de droite. Au niveau des politiques, évidemment, il y a peut-être plus de similitudes, mais il faut tout de même relativiser. Le Parti conservateur est un parti qui, même s'il critique les institutions démocratiques, les respecte, contrairement à M. Trump.
Contrairement à ce qu'on, qu'on voit au sud.
Voilà. Mais je pense que vraiment, les gens ont peut-être fait ce lien-là. Donc, ces deux éléments-là ensemble ont probablement amené à ce que les libéraux soient en avance dans les sondages.
Laurence Nardon, pour revenir à ce que vous commenciez à nous expliquer concernant l'Arctique, ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, les deux candidats, donc Carney, le libéral, et Poilievre, le conservateur, sont allés faire campagne dans le Nunavut, qui est donc c'est 40% du territoire canadien. C'est absolument gigantesque. Et là... les Canadiens, quel que soit le gouvernement qui arrive au pouvoir la semaine prochaine, il n'y a qu'un tour, hein, je crois, dans le système électoral canadien, scrutin majoritaire à un tour, à l'anglaise en quelque sorte, l'Arctique va jouer un rôle essentiel.
Oui, parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'Arctique a toujours été l'un des rares points de dissension entre le Canada et les États-Unis, mais encore plus aujourd'hui, puisque à mesure que le climat se réchauffe, les routes maritimes sont ouvertes de plus en plus longtemps. Alors, c'est pas toute l'année, puisque c'est gelé la majeure partie de l'année, mais mettons que les mois pendant lesquels on peut naviguer sont plus nombreux désormais.
Le fameux passage du Nord-Ouest qui a hanté les grands explorateurs magnifiques.
Ah, c'est
de
des épopées extraordinaires.
Des épopées auxquelles Louis C. Clarke,
par exemple, avec Toussaint Charbonneau, qui était un Français. Bon, bref, c'est d'une expédition qui avait été lancée en 1803 pour découvrir ce fameux passage du Nord-Ouest. Alors, qu'est-ce que c'est le passage passage du Nord-Ouest, c'est l'idée qu'il doit y avoir un passage maritime pour contourner l'immense masse continentale des Amériques par le Nord. On savait le contourner par le Sud. Mais par le Nord, on ne savait pas. Et donc, on a découvert à la fin du 19e que c'était compliqué parce qu'il fallait vraiment passer... on avait 15 jours au mois d'août pour passer. D'ailleurs, certaines expéditions sont restées bloquées avec des fins tragiques pendant plusieurs hivers. Bref, les États-Unis et le Canada se disputent la possibilité de passer par ces fameuses routes. Le Canada considère que la plupart de ces endroits au nord, donc du Canada, sont des eaux territoriales canadiennes, alors que les États-Unis, qui ont l'Alaska du côté ouest du continent, considèrent pour leur part que c'est en partie des eaux territoriales américaines, et puis pour le reste, des eaux internationales. Et comme les États-Unis n'ont pas signé le traité de la mer de Montego Bay 1982, eh bien, il y a une sorte de vide juridique là-dessus et ils se disputent. Et dans ce fameux projet 2025 que je citais tout à l'heure, il est vraiment marqué noir sur blanc que les avancées américaines dans la domination de l'Arctique sont fondamentales. Alors, non seulement vis-à-vis du Canada, qui n'est pas complètement cité de manière explicite, mais surtout du côté de la Russie, puisque lorsque ce projet 2025 a été rédigé, les États-Unis étaient encore officiellement plutôt hostiles à la Russie. On a vu dans les 100 jours qui viennent de s'écouler que ça n'était plus le cas.
Ce qui renvoie évidemment aux volontés de cette administration Trump d'annexer tout simplement le Groenland. Ça fait partie, bien évidemment, du même schéma d'expansion territoriale pour des raisons de, comme disent-ils, de sécurité par rapport à la Russie et par rapport à la Chine.
Et par rapport à la Chine et aussi, oui. Dans ce contexte, il faut aussi ajouter cette volonté de dominer les Amériques, qui est vraiment très très claire dans cette seconde administration Trump, je n'ai pas dit deuxième, et qui est très très clairement revendiquée par Donald Trump. C'est ce qu'on appelle, c'est vraiment un retour au corollaire Roosevelt, si je peux citer cette...
Mais quel Roosevelt ?
Alors, c'est le premier, c'est Teddy Roosevelt. On parle beaucoup de la doctrine Monroe, qui date des années 1820, et par laquelle le président américain de l'époque signifiait aux puissances européennes qu'elles n'étaient plus légitimes à avoir leur mot à dire dans les affaires des Amériques. Ce qui ne sera pas complètement vrai, parce que la France aura des aventures au Mexique, la bataille de Cameron dans les années 1860. Mais bref. Donc ça, c'était on met les puissances européennes à l'écart. En 1905, le président Teddy Roosevelt, qui est vraiment un nationaliste très impérialiste, comme c'est le successeur de McKinley,
McKinley, qui est le héros de Donald Trump.
Nouveau héros de Trump.
Ce président qui a une politique protectionniste tellement catastrophique que ça a précipité, en quelque sorte, la crise de 1929. Mais bon, revenons à Theodore Roosevelt.
Et à son fameux corollaire qui complète la doctrine Monroe en disant non seulement les Européens ne sont plus les bienvenus, mais ce sont les États-Unis qui ont la légitimité du contrôle de toutes les Amériques. Et c'est ça ce que Trump veut refaire, aussi bien en Arctique que vis-à-vis du Mexique et du reste de l'Amérique du Sud.
Dominique Mosi, cette vision qu'on peut qualifier d'impérialiste, d'impérial en quelque sorte, de Donald Trump, s'agissant... plus particulièrement du Canada, puisqu'encore une fois, les élections qui auront lieu lundi vont être très très fortement marquées. Je crois que c'est intéressant pour nous autres en Europe, parce que on va voir véritablement la première traduction démocratique de cet incroyable feuilleton politico-économique auquel nous participons, nous aussi, depuis janvier dernier. Donc, Dominique, cette vision expansionniste territoriale, comment la situez-vous dans l'histoire des relations bilatérales entre Washington et Ottawa ?
Ah, tout à fait nouvelle, avec le ton utilisé par Donald Trump, avec cette question que vous posez, est-ce que Donald Trump n'est pas un risque pour les populistes qui revendiquent le pouvoir? On le voit au Canada, Marc Carnet devait perdre les élections. Il succédait à Trudeau, qui était très impopulaire. Il est peut-être à la veille de les gagner, parce que c'est un adulte dans le continent, parce que il peut avoir dans l'esprit des Canadiens l'aura internationale, le sérieux, la réputation de tenir tête à Donald Trump, l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre. Ce n'est pas rien. Et donc il y a cette idée, mais qui concerne la France aussi, si l'Amérique devient ce qu'elle est aujourd'hui sous Trump, on a besoin de gens sérieux au pouvoir. Et il y a un coup qu'on sent peut-être frémir pour le Rassemblement national en France. Ce qui est certain, c'est que Donald Trump a donné de l'oxygène à Emmanuel Macron. On pensait que après la décision malheureuse prise le 9 juin, il allait se traîner difficilement pour survivre jusqu'en 2027. Eh bien, Donald Trump lui a donné un souffle de vie nouveau. Donc je crois que c'est une question importante. Et si un populiste aussi caricatural, aussi incohérent, qui amène le chaos dans le système international, n'était pas perçu comme une forme d'avertissement? Attention, on a besoin de gens sérieux, on ne plaisante plus, on ne peut plus déléguer notre sécurité à l'Amérique, nous devons être responsables d'elle, eh bien on a besoin de gens sérieux au pouvoir chez nous. Et ça commence peut-être, bien évidemment, par le Canada. Est-ce qu'il y aura un jour dans les livres d'histoire quelque chose qui s'appellera comme la leçon du Canada ou l'avertissement du Canada redonner vie et espoir au système démocratique classique?
La leçon du Canada, Sébastien Jean, pour nous autres Européens, on l'étudie en quelque sorte d'abord aussi sur le plan économique et commercial. Parce que quelle riposte l'économie canadienne, tellement imbriquée, tellement dépendante de l'économie américaine, états-unienne, quelle est la marge de manœuvre du prochain gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs?
Je crois que la première chose qu'on apprend de cet épisode et de la réaction du Canada, c'est que ça n'est pas avant tout un problème économique, c'est un problème politique. Les évaluations de la Banque du Canada, par exemple, sont que le Canada pourrait perdre jusqu'à 4 points de PIB, ce qui est énorme, dans une vraie guerre commerciale avec les États-Unis. Les États-Unis ne sont pas du tout dans une situation où ça pourrait leur coûter autant. Mais pourtant, qu'est-ce qui se passe politiquement? Les Canadiens, je pense, légitimement outrés de ce qui se passe, font bloc derrière leur gouvernement, sont prêts à faire ce qu'il faut pour faire face à cette situation.
Et les Américains, on ne consomme plus américain.
Absolument.
Il y a des affichettes.
Un mouvement puissant, citoyen et politique, finalement, de soutien au Canada dans cette situation. Les Américains, de leur côté, ça va peut-être leur coûter simplement quelques dixièmes de points d'inflation. Mais les citoyens américains, eux, voient une politique qui a été déclenchée quasiment sans fondement par Donald Trump, qui leur promet monts et merveilles. Et donc, eux, ils seront beaucoup moins tolérants à la frustration économique, à la frustration sur leur pouvoir d'achat. Donc ça, c'est un premier point. C'est que il y a une motivation politique qui est éminemment différente et qui change complètement la donne. Ensuite, ce qu'on sait aussi, c'est que dans ces affrontements économiques, ce qui compte souvent, ça n'est pas tant la valeur créée par l'échange, c'est quel est le coût de la rupture de l'échange. Et c'est différent, c'est pas exactement, il suffit pas de mettre un signe moins là où on avait un signe plus. On le voit par exemple avec, tout à l'heure je mentionnais la fourniture d'électricité, mais si le Québec, si Hydro-Québec arrête de fournir, ou plus exactement surtaxe l'électricité pour des clients new-yorkais, ils vont pas pouvoir passer à un autre fournisseur du jour au lendemain. Donc il y a des éléments comme ça, et puis le Canada est aussi indispensable pour les États-Unis, pour la potasse, donc les engrais, parce qu'ils en fournissent l'essentiel, pour le bois d'œuvre, très important dans la construction américaine, même si c'est un conflit commercial depuis des décennies.
Mais au moment où il y a une crise du logement aux États-Unis, comme au Canada d'ailleurs.
Absolument. Pour l'industrie automobile, on en a parlé déjà, etc. Donc, il y a aussi une menace de... En fait, ils ne peuvent pas se soutenir ce bluff que Donald Trump a mis en place, parce que le coût, il est aussi très important du point de vue américain, et le Canada leur est indispensable à certains égards, même si la relation est asymétrique.
Mais la différence par rapport à nos économies européennes, c'est que l'économie canadienne repose de façon majeure sur les matières premières, dont ils disposent en abondance, le pétrole et le gaz en particulier, et tout est organisé évidemment vers le sud, vers le marché américain. Donc là, on a vu que Marc Carney, son premier voyage à l'étranger, ça a été de venir à Paris, ensuite il est allé à Londres, donc évidemment, cocorico. Néanmoins, la géographie, elle est ce qu'elle est.
Oui, c'est vrai. Et le Canada, ce cas très particulier, on peut faire le parallèle avec l'Australie, soit dit en passant, d'une nation qui est à la fois riche et quand même dont l'économie est fortement structurée par le secteur primaire, finalement, pour le dire comme ça. Là où la situation est difficile pour eux, c'est que ça a été déjà très bien dit, ils ont été complètement pris par surprise, c'est-à-dire que dépendre du marché américain, a priori, politiquement, ça ne semblait pas être un problème pour le Canada. On peut dire qu'en Europe, quand on dépendait du gaz russe, on aurait pu l'anticiper. Pour le Canada, c'était quand même beaucoup plus improbable. Donc la situation aujourd'hui, elle est regardée désormais avec un œil nouveau. Et ça, je pense que c'est un dommage durable, un préjudice durable dans la relation et dans la crédibilité des États-Unis, quoi qu'il arrive dans les négociations. C'est qu'ils vont chercher à se diversifier pour moins dépendre des États-Unis. Alors, ils ont passé ce fameux accord CETA avec l'Union européenne, qui est en application provisoire depuis 2017.
Donc un accord de libre-échange.
Comme
à chaque fois, dont il faut soulève des arguments idéologiques.
Des controverses politiques dont aujourd'hui on mesure la disproportion par rapport à leurs effets économiques très faibles. Très faible. Moi, je vois rarement un steak canadien dans mon assiette, beaucoup plus rarement que je ne l'entends dans des débats. Parce qu'en fait, on a pris, il y avait des quotas tarifaires qui sont absolument pas remplis, mais dans une proportion infime. Les échanges entre l'Europe et le Canada se sont développés, c'est vrai, mais à peine plus vite que nos échanges avec les autres pays. Donc, ça nous dit un peu la boursouflure de ces débats politiques autour des accords de libre-échange. En tout cas, celui-là, certainement, qui était très étonnant
parce
aussi.
Parce qu'il y a aussi le Mercosur qui est.
Voilà. C'est pour ça que celui avec le Canada, voilà, le Mercosur, c'est quand même très différent. D'autant que le Canada, il y a une communauté de valeurs et d'approches sur un certain nombre d'aspects qui faisaient que c'était a priori moins clivant comme sujet. Mais donc, ces questions-là reviennent sur le tapis parce que il y a une nécessité maintenant de se diversifier pour le Canada, pour moins dépendre des États-Unis dans leurs relations économiques. Ça fait partie de l'héritage de cet épisode.
Philippe Chassé, dans cette campagne électorale, j'imagine que vous continuez de la suivre de près en bon citoyen, est-ce que cet argument-là d'un rapprochement avec l'Europe, cette idée évidemment farfelue, mais que le Canada pourrait demander à intégrer l'Union européenne, c'est totalement farfelu, mais c'est intéressant même que cette formulation ait été prononcée.
Oui, je crois qu'il faut surtout l'interpréter comme la volonté des Canadiens de se rapprocher de l'Union européenne. Je crois que les Canadiens en savent peu sur ce que ça représente de joindre l'Union européenne, donc ces sondages, il faut les prendre avec un grain de sel, mais ça l'envoie un signal clair qui est de dire les Canadiens veulent avoir plus de relations avec les Européens. Pour l'instant, si je ne me trompe pas, c'est 5% des exportations canadiennes seulement, donc c'est bien peu. Mais on l'a bien vu aussi avec Monsieur Carney, vous l'avez mentionné, ses premières visites à l'étranger étaient en France, puis au Royaume-Uni, et ensuite, il est revenu et était faire un séjour dans l'Arctique également, donc trois endroits qui seront très importants. Il y a cette volonté-là de s'approcher de l'Europe. Il y a aussi un aspect qui a été très important pendant la campagne électorale, qui est de réduire la législation entre les différentes provinces, parce qu'en ce moment, il y a aussi très peu de commerce entre les différentes provinces canadiennes. Donc, enfin, on a souvent tendance
Ce qui est une faiblesse, d'ailleurs.
Ce qui est une faiblesse pour le Canada. Donc, vraiment, c'est toujours, comme c'était bien expliqué dans l'émission, c'est souvent nord-sud, donc par exemple, les producteurs québécois ont tendance à exporter vers les États-Unis d'Amérique et moins vers l'Ontario, le Manitoba ou d'autres provinces canadiennes. Et on a souvent tendance à dire qu'au final, le Canada, c'est 13 économies différentes, parce qu'il y a aussi 3 territoires, donc 13 économies différentes. Donc, plusieurs candidats politiques ont avancé cette idée-là. On le retrouve chez Marc Carney et le Parti libéral du Canada, mais aussi chez les conservateurs. Eux voient dans ça, eux, ils veulent surtout exporter aussi les ressources. Donc, on a remis sur la table ces idées-là de créer de nouveaux gazoducs pour mieux exporter les ressources naturelles du Canada, parce qu'il faut savoir que ces ressources naturelles-là, parfois, se retrouvent, entre autres pour ce qui est de l'essence, se retrouvent au centre du Canada, donc dans les provinces de l'Alberta, Saskatchewan un peu également, mais il faut les amener dans des ports d'exportation. Et ça, ben, sans gazoduc, c'est plus difficile de le faire, c'est faisable, mais c'est plus difficile de le faire. Donc, les conservateurs, mais aussi les libéraux, hein, qui se sont recentrés, donc qui sont un peu plus au centre de l'échiquier politique maintenant, parlent de créer des gazoducs également.
Il semblerait que dans cette campagne, Elon Musk, évidemment, a voulu jouer le rôle qu'il s'arroge, Dieu sait pourquoi, enfin si, on sait pourquoi, la puissance des algorithmes. Et donc, dès janvier, il a soutenu Pierre Poilievre, donc le candidat conservateur, et apparemment, il y a une campagne de désinformation massive menée par le réseau X, et où évidemment Carney, le libéral, est caricaturé, vendu aux Chinois, vendu aux Européens, vendu à Dieu sait quoi. Donc la désinformation d'un pays démocratique à l'encontre de son voisin démocratique. Enfin, on avait déjà vu Musk et le vice-président Vance à Munich allant rendre visite à la candidate d'extrême droite allemande et non pas au chancelier en exercice. Enfin, on atteint quand même des proportions inimaginables, Philippe.
Oui, c'est tout à fait particulier. J'aurais tout de même tendance, et même si je ne vais pas minimiser les risques de la désinformation au Canada, ce qu'on voit, c'est que malgré cette désinformation-là, les sondages restent plutôt semblables. Et rien ne semble vraiment affecter la campagne de M. Carney. Il y a eu, pendant la campagne, comme toute campagne électorale, certaines controverses. Et ces controverses-là ne semblent pas nécessairement affecter les sondages. Donc, M. Carney se retrouve encore aujourd'hui avec un appui qui est fort malgré cette désinformation-là. Donc, ça ne semble pas avoir trop d'impact pour le moment. Et peut-être l'autre point que je soulèverais, c'est que je me demande à quel point les Canadiens sont également présents sur X. Donc, pour les auditeurs qui sont présents sur X, je crois que vous avez peut-être pu remarquer que dans les derniers mois, dernières années, la qualité du contenu qui s'y trouve beaucoup évolué et ça a amené certaines personnes à quitter le réseau. Et je le dis moi-même, j'ai quitté ce réseau, je suis maintenant sur Blue Sky plutôt, mais parce que la qualité du contenu a complètement changé. Donc, qui s'informe encore là? Et est-ce qu'on croit vraiment les informations qu'on voit là? Et est-ce que les citoyens sont peut-être à même de mieux en mieux à reconnaître lorsque ce sont des robots qui envoient les messages? Et est-ce que
là,
ces messages-là aussi...
Là.
Peut-être, c'est vrai.
Mais je ne résiste pas à citer les propos du premier ministre de la province de l'Ontario, qui est un conservateur, Monsieur Ford, qui parce que c'est par l'Ontario que passe Sébastien le Hydro-Québec, donc qui alimente en électricité la ville de New York, c'est pas rien. Et donc ce premier ministre conservateur a dit à propos de Donald Trump, je cite, hein, j'ouvre les guillemets, parfois c'est comme s'il perdait la boule quand il se lève, même son entourage ne sait pas ce qu'il va faire. Fin de citation. Laurence Nardon, est-ce que c'est bien résumé, en fait, l'état d'esprit qui traverse en ce moment, et je pense à tous ces dirigeants européens, le président Macron en tête, le premier ministre britannique, ils sont place Saint-Pierre, la messe de funérailles du pape François continue de se dérouler, et on peut imaginer qu'au-delà de leur dévotion personnelle, ils se disent, il y a là Donald Trump et on ne sait pas ce qu'il a dans la tête.
Oui, ben ça, c'est quelque chose qu'on connaît de Trump depuis toujours, c'est-à-dire qu'il a une psychologie très particulière avec ce narcissisme, cette impulsivité, cette volonté de gratification immédiate. Enfin, il y a quelque chose d'un peu enfantin. Et la différence entre le premier mandat et le second, c'est que cette fois-ci, il a autour de lui non plus des gens qui le cadrent et qui servent de garde-fous, mais des yes men, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui sont d'accord avec lui sur le fond, ou qui le craignent, ou qui tout simplement, et ça je trouve que c'est vraiment horrible à voir, c'est ce phénomène de cour qu'il y a autour de lui avec des gens qui sont dans une obséquiosité vile, franchement, il n'y a pas d'autre terme, et qui donc acceptent tout ce qu'il dit, et donc son imprévisibilité est beaucoup plus dangereuse aujourd'hui, comme on le voit tous les jours. Alors, il n'est plus vraiment sur X, lui non plus, pour d'autres raisons, il est sur son réseau à lui, Truth Social, mais donc oui, chaque jour, apporte sa surprise qui, au lieu d'être entravée par ses conseillers, est au contraire aujourd'hui encouragée et validée par ses conseillers.
Dominique Mauzy, cette dimension qu'il faut bien qualifier d'irrationnelle, et encore une fois, la formule du Premier ministre de l'Ontario, elle est massive, mais c'est comme s'il perdait la boule. Est-ce que nos dirigeants européens, comment peuvent-ils prendre en compte ce nouveau théâtre de cour auquel Laurence vient de faire allusion?
Je crois que le problème à long terme, c'est que l'Amérique, qui était perçue comme un allié fiable, comme une assurance vie ultime par ses alliés, a perdu ce caractère rassurant. Maintenant, il y aura toujours cette idée, et si l'Amérique était, comme elle l'a été pendant la période Trump 2, un allié absolument pas fiable, auquel on ne peut plus faire confiance. Donc il y a cette idée que l'Europe doit maintenant faire face sur deux ou trois fronts. Il y a le front chinois sur le plan économique, le front russe sur le plan stratégique, et maintenant le front américain sur ces deux plans réunis. Donc je crois que c'est ça qui a fondamentalement changé dans le système international. L'Amérique, d'une garantie, est devenu un risque, sinon le risque ultime, le risque suprême. C'est ça qui est, je dirais, révolutionnaire. Et il y a cette idée que le président des États-Unis est d'un dynamisme prodigieux. On ne peut comparer ce dynamisme et les 100 premiers jours de Trump qu'aux 100 premiers jours de Franklin Delano Roosevelt, au début des années 30, mais Franklin Delano Roosevelt était rationnel, humaniste, cohérent. Trump est exactement son opposé. Donc c'est un dynamisme extrême, mais qui ne mène nulle part et qui apparaît empêtré dans ses propres contradictions.
On ne sait toujours rien de la rencontre qui a donc eu lieu ce matin à Rome entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Mais Sébastien Jean, en guise de conclusion provisoire à cette conversation, il faut revenir à la dureté des faits. Et la dureté des faits, il y a cette guerre qui continue sur notre continent, et il y a aussi la réalité économique entre l'Union européenne et les États-Unis, et au fond, on ne sait pas non plus où on en est tout à fait dans cette guerre des droits de douane, dans cette guerre commerciale.
Oui, la situation est très différente avec les, dans la relation transatlantique, parce qu'il y a une certaine symétrie de taille. Donc, c'est très différent de ce qui peut se passer au sein du continent nord-américain. Et pour autant, il y a beaucoup de déséquilibre dans cette relation. Alors, Trump met toujours en avant le fait qu'ils sont très déficitaires par rapport à nous dans le commerce de biens. Bon, on est nous-mêmes déficitaires dans les services. Et puis, on a quand même aussi des éléments de dépendance aux États-Unis pour notre sécurité, vous venez de le rappeler, en Ukraine, où les États-Unis jouent un rôle capital, et puis dans le cadre de l'OTAN. Mais aussi... en termes financiers, parce qu'on est quand même dans une planète qui est aujourd'hui dans un monde financier qui est structuré autour du dollar. Donc là, on est quand même structurellement dépendant des États-Unis. Et puis dans le domaine numérique, parce que tous nos fonctionnements, nos infrastructures aujourd'hui dépendent des Américains. Alors, la situation pour les Européens, elle est très difficile. Elle est en effet d'avoir perdu confiance dans les États-Unis. Mais aussi de faire le constat qu'on dépend d'eux sur un certain nombre d'aspects et on ne peut pas découpler cette relation. Donc on est dans une discussion très difficile. Tout le monde comprend que face à Trump, il faut faire preuve de fermeté, que toute faiblesse est une invitation à demander plus. Très bien. Mais en même temps, qu'on ne veut pas et qu'on ne peut pas même soutenir une escalade. Donc on essaie de
trouver... Ce qui explique d'ailleurs la position... qui a été applaudi par Donald Trump. Pour une fois, il a fait un compliment aux Européens. Les Européens ont été très intelligents parce que la Commission de Bruxelles a répliqué, mais sans escalader, si j'ose dire.
C'est très difficile de trouver cet équilibre. Et au fond, par rapport aux deux problèmes que rencontre structurellement l'Union Européenne dans ce genre de dossier, il y a la division et la lenteur. La division, c'est toujours un problème, et ça l'est particulièrement aujourd'hui. Il faut être unis, on voit bien avec la tentative américaine de diviser, même politiquement. La lenteur, en revanche, je pense que paradoxalement, aujourd'hui, c'est un atout. C'est-à-dire que ça permet de dire, on va répondre de manière forte, mais ça va prendre du temps. Comme ça, à la fois, on met une pression politique, on laisse Trump s'empêtrer dans les incohérences de sa stratégie, on met la pression et on ne nourrit pas l'escalade. Parce que comme on n'a pas encore mis en œuvre nos représailles, elles peuvent pas faire l'objet d'une escalade, disons, d'une représaille en retour des États-Unis. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on parle beaucoup en ce moment de l'instrument anti-coercition. Moi, contrairement à ce qui est souvent avancé, je pense pas qu'il faille l'écarter. Je pense au contraire que sans forcément l'appliquer, ce qui de toute façon serait long, il faut le laisser sur la table dans la discussion et ça serait
et donc,
une lourde erreur de l'écarter
d'anglais. Les instruments anti-coercition, brièvement, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail, c'est sur le plan financier surtout.
C'est un instrument juridique qui permet de se donner les marges de manœuvre pour répondre comme on le souhaite. C'est pour ça que je considère que ce n'est pas l'option nucléaire, contrairement à ce qu'on dit, parce qu'en fait, après, on peut déterminer ce qu'on souhaite, on peut très bien faire une réponse limitée. Mais on est moins contraint que dans beaucoup d'autres canaux par le contexte et les règles institutionnelles et juridiques.
Alors, la dernière information ce matin concernant l'Ukraine, le président Zelensky et le président Trump sont convenus d'une deuxième réunion aujourd'hui, samedi, donc dans l'après-midi, et sans doute on espère en savoir plus des deux côtés. Il se peut d'ailleurs que la version de la conversation ne soit pas la même du côté américain et du côté ukrainien. Le dernier mot, bien sûr, à notre ami québécois. Vous avez déjà voté, vous, j'imagine.
Tout à fait. Il est possible de voter par la poste. Donc, j'ai voté ici depuis la France.
Et les résultats, donc, quand les aura-t-on des élections générales de lundi?
Donc, normalement, à l'heure du Canada, tard le soir du 28 avril. Et en France, ici, ce sera le 29 avril au matin.
Alors, le 29 avril du matin, donc, nous saurons si Marc Carney, le libéral, que les sondages, pour le moment, donnent vainqueur, sera reconduit à la tête du gouvernement canadien. Grâce à qui? Grâce à Donald Trump.
Voilà.
Voilà. Donc, c'est l'un des paradoxes contemporains avec lesquels il nous faut fonctionner aujourd'hui. Donc, merci. Merci beaucoup à vous quatre. Laurence, je rappelle ce podcast New Deal qui est disponible sur plusieurs plateformes. Et puis, vous recommandez... À juste titre, une excellente note de l'IFRI sur le Canada, le Grand Réveil, signée par Morgane Larente, qui est, je crois, à l'ambassade de France
à Ottawa,
et que l'IFRI a publié en mars 2025. Sébastien Jean, Une autre note de l'IFRI sur les tensions géopolitiques et leur impact sur les relations commerciales. Ça a été publié en anglais en décembre dernier. Dominique Moisy, je rappelle votre dernier ouvrage, Le triomphe des émotions, chez Robert Laffont, qui a obtenu le prix Vauban l'an dernier. Et Philippe Chassé, vous avez co-signé un papier en anglais sur la division du pouvoir au Canada, la décentralisation, l'asymétrie, dans le journal du fédéralisme. Je crois que ça va sortir. Voilà. À la réalisation ce matin, Luc Jean Reynaud, Anthony Thomasson était à la technique, Laura Dutèche-Pérez m'a aidé à préparer, comme chaque semaine, cette émission avec la documentation de Radio France. Et voici Marina Carrère-Dancause pour les carnets de santé. Très bon week-end et à samedi prochain.